Radio de la Paix.
Reportage.
Kong est une ville qui compte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour son rayonnement islamique et commercial au Moyen-Âge. Elle est située à l'entrée du parc national de la Komoué. Elle est surtout connue pour sa mosquée traditionnelle de style néo-soudanais, classée monument historique, mais aussi pour les cases de Bengé et du premier président Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion de la réalisation d'une série de reportages dans la région du Kyologo, Radio de la Paix s'est rendu dans cette ville historique pour découvrir ses sites cités plus haut. Et suivez-nous dans cette visite guidée en compagnie du troisième adjoint au maire, maire résident de Kong, Barrow Aboubakar, descendant de l'imam Barrow. Et c'est en cette dernière qualité que Barrow Aboubakar nous dirige vers la mosquée pluriannuelle de Kong.
Présentation, Junior Cardin.
Première étape de notre parcours. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur Cardin.
Vous avez bien dit mosquée pluricentenaire.
D'abord je voulais faire un rectificatif. Là je ne parle pas en tant que maire, en tant que descendant de l'imam Barrow.
Et l'imam Barrow qui c'est?
L'imam Barrow c'était le premier imam de Kong. C'est lui-là même qui a bâti la mosquée devant laquelle nous sommes actuellement. L'imam Barrow, c'était un compagnon des premiers chefs, notamment avant Sékou. Et il a collaboré avec Sékou Ouattara.
La première mosquée, c'est bien ça, hein?
La première mosquée de Kong, je dirais même plus la première mosquée de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'islam a fait sa pénétration en Côte d'Ivoire par le nord. Et c'était Kong qui était la ville la plus développée en Côte d'Ivoire. J'en ai pour preuve les anciennes cartes. Il a bâti cette mosquée à la fin du 16e siècle. C'était d'abord initialement une mosquée familiale. Donc il n'y a que trois rangées dans cette mosquée, en plus de la rangée de l'imam.
Et cette mosquée, vous précisez que c'est la mosquée la plus ancienne de Côte d'Ivoire?
Tout à fait. Ça, je ne doute même pas de cela, puisque l'islam a fait sa pénétration par le nord, et c'était Kong d'abord. Et puis maintenant, tous les érudits que vous avez trouvés en Côte d'Ivoire, tous leurs arrière-grands-parents ont fait leur école coranique à Kong, et qui ont été ensuite accompagnés par des Congois chez eux pour s'installer. Certains même ne sont même pas revenus encore par la suite.
Et au moment où votre arrière-grand-père créait donc cette mosquée, quelle était l'importance de la religion musulmane à Kong?
Bon, l'agent musulman était plutôt embryonnaire parce qu'il y avait un chef ici qui était très sanguinaire. Il n'avait pas du tout un caractère religieux. Donc chacun pouvait prier chez lui, mais lui, il a fait un lieu de rassemblement où on devait prier ensemble. C'est sa tombe qui est là, la tombe de l'imam.
On peut peut-être marcher un peu pour voir la tombe de l'imam Barrow.
C'est parce qu'on a fait la clôture de la mosquée que cette tombe s'est trouvée dans la cour de la mosquée. Sinon là, c'était une cour. Cette cour s'appelait Monsieur Deningoro, c'est-à-dire la cour qui est à côté de la petite mosquée.
Et l'imam Barrow, il est décédé quand?
Au début du 17e siècle. En même temps, vous voyez ici, en face de la mosquée, on a un caveau. Bon, dans l'islam, on ne décrète pas quelqu'un de saint. On dit que c'est les dignitaires qui sont ici. N'importe qui n'est pas enterré là.
Depuis l'imam Barrow, le premier imam de Kong jusqu'à ce jour, tous les imams qui sont succédés sont des Barrow?
Non, justement. Vous savez, l'imam Barrow, il est actuellement le chef. C'est lui qui régit l'islam à Kong. Chaque fois qu'il y a un événement islamique, on s'adresse à l'imam Barrow. Nous qui sommes les descendants, bien sûr. Et nous demandons l'autorisation au chef du canton, le chef du village. Mais l'imam Barrow était seul dans la gestion du volet islamique à Kong. Évidemment, ce n'est pas facile. À un moment donné, les Barrow allaient dans les campagnes de conquête avec l'armée de Sékou. Donc les Barrow ont confié la responsabilité de la gestion de l'islam aux Konaté, qui sont de l'autre côté. Mais l'imam Barrow, depuis qu'il a été imam, il s'est dessaisi du rôle de l'imam. Pourquoi? Parce que tous ceux qui venaient, les érudits venaient à Kong. Ils les appellent, ben écoutez, venez m'aider, j'ai un travail monstre à faire. Donc ils s'installent. Quand vous demandez à quelqu'un, viens m'aider à faire le travail, toi tu continues de faire le travail, est-ce que c'est normal? Donc ainsi, l'imam a tourné entre plusieurs familles, notamment les Sogodogo, les Koulibaly, etc. Jusqu'à aujourd'hui, l'imam est figé dans la famille des Sanogo.
Donc l'islam est la principale religion à Kong ou bien l'unique actuellement?
Voilà, je préfère dire ça. L'islam était l'unique religion à Kong. Il n'y avait pas d'autre religion. Et dans toute ville s'est développant. Kong était d'abord une sous-préfecture depuis le début des années 60, 62 plus précisément. Et forcément, l'administration s'est déployée. Alors, il y a des personnes qui arrivent ici qui ne sont pas musulmans. Mais je vais vous dire, le 4e sous-préfet de Kong a construit la première église ici à Kong. Cette église est restée désaffectée. Une autre église a été construite, idem. Pour que Kong puisse avoir des églises, il a fallu attendre pratiquement les 20 dernières années là, pour voir des églises qui aient pu prospérer. Sinon, il n'y avait que la religion musulmane à Kong, exclusivement la religion musulmane avec les pratiques musulmanes. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons, il y a même des débits de boissons. C'est aussi ça le développement.
Je viens donc à la mosquée pluricentenaire. Comment vous décrivez cette mosquée, son architecture?
Bon, l'architecture, c'est de type soudanais. Alors, c'est importé depuis le Soudan Mali actuel. Lorsque vous voyez la mosquée, elle est exclusivement en terre battue. Mais ce n'est pas seulement que la terre, on y incorpore des écorces d'une essence d'un arbre là, qu'on appelle flougou. On laisse pourrir là-dedans et les enfants marchent là-dedans pour pétrir. La terre devient tendre, c'est ce qu'on prend pour construire. Alors, cela me fait dire quelque chose. Il y a des journalistes qui sont venus à Kong, ils sont venus voir la mosquée de Samouré à Kong. Ils viennent, ils constatent qu'il y a deux mosquées. Ils disent, monsieur le maire, on dit à la mosquée de Samouré à Kong, je viens entre les deux mosquées, laquelle des deux est la mosquée de Samouré? Il dit, mais aucune des deux. Samouré n'ayant pas séjourné à Kong.
Donc, monsieur Barreau, vous nous dites que Samouré n'a pas construit de mosquée à Kong?
Non, c'est moi, j'avais dit qu'il n'a pas construit de mosquée à Kong. Mais je vais dire plutôt qu'il a plutôt détruit une mosquée. C'est la grande mosquée. Lorsqu'il est rentré à Kong, il n'y avait pas de combattants. Les populations qui étaient là, les vieilles personnes, les femmes, les enfants, sont allés se réfugier dans la grande mosquée. C'est là qu'il allait les attaquer, tuer certains.
Dans la mosquée?
Dans la mosquée, en tant qu'imam, comme il prétendait. Ça, c'est d'un. De deux, ces mosquées datent de plus de 200 ans avant la naissance du père même de Samouré. De trois, on ne détruit pas ce qu'on a construit, sauf quand on constate que ce n'était pas à faire. Il a détruit la mosquée. Si c'était lui qui avait construit, pourquoi il va détruire? Alors, donc, je suis obligé de corriger chaque fois, et même devant le ministre dans le temps, le ministre Bandama, pour dire enlever ça dans les chansons, la mosquée de Samouré à Kong. Samouré n'a pas de mosquée à Kong.
Cette mosquée que je vois, elle a toujours existé comme telle, ou bien il y a eu des modifications au fur et à mesure?
Aucune modification, à part le modernisme qui est apparu, c'est le fait de voir des fils électriques, les haut-parleurs, la lumière à l'intérieur. Sinon, aucune modification dans l'architecture. On ne fait que faire de la restauration. Bon, vous savez, comme c'est la terre, quand il pleut, l'eau des ruissellements peut emporter des parties. Et le toit aussi, étant en terre battue, quand il y a des herbes là-dessus, ces herbes-là peuvent retenir l'eau. Donc on est obligé de monter pour enlever les herbes et essayer de damer un peu.
Mais vous avez parlé tout à l'heure de la grande mosquée qui existe non loin d'ici. Aujourd'hui, où nous sommes, la plus ancienne, elle sert seulement de souvenir ou bien on continue à prier ici?
Cette mosquée, tout comme la grande mosquée, on y pratique les 5 prières canoniques du jour. Mais la différence entre les deux mosquées, c'est que la grande mosquée, en dehors des 5 prières canoniques qu'elle abrite également, on y pratique la prière du vendredi. Ça, c'est exclusif à la grande mosquée.
Avant de parler de la construction de cette mosquée, vous avez dit qu'il y avait un chef qui était sanguinaire ici, qui a été combattu par ses coups pour que aujourd'hui là, l'islam soit répandu dans la zone. Est-ce que l'emplacement de la mosquée a une histoire?
Alors, l'emplacement ici pour la mosquée, ce n'est pas un lieu de culte comme ce que vous pensez éventuellement. Par contre, la grande mosquée, si, parce que c'était là que était le fétiche, tout comme le cas de la Kaaba. Là, en face, là, ce que vous voyez là comme une des maisons à étage, c'était l'une des universités islamiques. Il y en avait 7 comme ça dans Kong. Mais l'université islamique, c'est depuis le béaba jusqu'à l'étude supérieure. C'est-à-dire, on apprend à lire sur les ardoises, sur des feuillets de Coran, sur des Corans moitié, ensuite sur des Corans complets. Et maintenant, on apprend aussi les premiers livres qui ont été révélés, la Taurat, l'Évangile, le Pentateuque, etc. Tout ce qui était révélé, on apprenait ça là.
Donc on va dire que Kong est une ville universitaire en ce qui concerne l'islam.
Voilà. Maintenant, avec le lotissement, comme vous le constatez, cette université, elle existe. Et quand on va voir dans la cour de la grande mosquée, il y a encore les remparts de l'autre université qui a été sauvée parce qu'ils ont fait la couverture de la mosquée, donc qui a pris en compte.
Tout ça, on ne trouve plus à Kong, hein?
Si, 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 ça existe. On les appelle Mangrissi, en Djoula. Mais en arabe, c'est Mandrasa.
Après un tour à la grande mosquée, notre interlocuteur va changer de casquette pour se présenter désormais comme troisième adjoint au maire, maire et résident de Kong. Aboubakar Barreau nous conduit à la découverte de la case de Bengé contiguë à la mairie.
La case de Bengé, quelle est son histoire?
Son histoire, c'est que quand Bengé est arrivé en Côte d'Ivoire, il est arrivé par le nord, il est descendu à Kong. Et ceux qui l'ont logé, c'est la famille qui est juste à côté, c'était les Dao. Et c'est cette maison-là qu'il avait. Avec une particularité, c'est que c'était l'une des rares maisons qui avait un grand salon, plus un petit salon et la chambre ensuite. Il avait un salon public, un salon privé et sa chambre à coucher. C'était en terre battue, jusqu'à présent d'ailleurs, à l'image de la plupart des maisons de Kong. Et derrière, on verra que...
On va marcher un peu pour faire le tour de la case.
Voilà. Bengé, dans la maison, il a percé, il a fait une lucarne qui lui permettait d'observer les visiteurs depuis sa chambre. C'est cette lucarne-là. C'était une vitre.
Oui, oui. On voit un triangle ouvert là.
Et ça permettait de voir dehors sans qu'on l'ait vu. Lorsqu'il entendait des voix, c'est par là qu'il regardait les visiteurs venir. Si c'est deux ou trois personnes, s'il faut les recevoir dans le salon privé. Sinon, le salon public, quand c'est du monde, c'est là.
De Bengé, aujourd'hui, beaucoup d'années sont passées. Qu'est-ce que cette case devient?
Bon, telle qu'on la voit, je suis fortement désolé. Elle n'était pas détruite comme ça. Mais il y a eu un financement pour réhabiliter la maison. Malheureusement, ceux qui ont pris ça en main Ils ne l'ont pas fait comme il faut, avec l'art qu'il fallait. Donc, ça s'est écroulé comme vous pouvez le constater. Mais le ministère a prévu de refaire le financement et on saura s'adresser à des experts pour le faire. Il y en a encore à Congo ici.
Ah, monsieur, on entend le musée, ça veut dire que c'est la prière de la mi-journée. D'accord. Donc, cette case est délabrée aujourd'hui. Mais pourquoi vous tenez tant à elle pour vouloir la réhabiliter?
Non, parce que quand même, Bengé fait partie non seulement de l'histoire de Congo, mais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez que Bengé avait voulu faire de Congo la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais le problème de comptoir français a imposé une autre réalité à Bengé et à Trèche-la-Plaine. Ils ont préféré aller faire ça sur la côte parce qu'il fallait créer les comptoirs français. Les bateaux ne peuvent pas arriver ici. Alors, ces premiers explorateurs qui sont venus à Kong, on dit que ils ont été émerveillés de voir une population qu'ils appellent civilisée, selon leur civilisation à eux. Ils sont surpris de voir des gens qui s'habillaient, des gens qui portaient chaussures, des gens qui, pour aller à la selle, allaient se cacher quelque part pour le faire. Contrairement à ce qu'ils ont observé depuis qu'ils ont quitté la France. Donc, Kong devrait être la capitale. C'était la plus grande ville. J'ai encore une photo dans mon bureau. Toutes les villes, les Abidjan sont écrits en italique, mais Kong, vraiment, c'est la seule ville qui est écrite en gras. C'est une carte plus récente, en 1900. J'ai vu une carte plus vieille que celle-là, où le contour de la couronne n'était même pas encore dessiné. C'est avec la côte. La seule ville qui est déçue, c'est Kong. Ça veut tout dire. Là, c'est pas moi qui ai dessiné, c'est pas Kong qui a dessiné.
C'est pas le fils de Kong qui a fait cette carte.
Ce sont ceux qui sont venus qui ont fait cette carte-là.
Et en tout cas, nous, on apprend cette histoire avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, est-ce que des gens viennent dans l'intention de découvrir cette case?
Oui, oui. Mais des gens viennent. Mais où est la maison de Bengé? Ça nous gêne de venir montrer un truc délabré comme ça. C'est les ruines de la maison de Bengé. Voilà. Beaucoup de gens viennent pour voir la maison de Bengé. En tout cas, on a eu la promesse du ministère qu'ils vont vraiment refinancer la restauration. Et là, on va s'y prendre mieux parce que le préfet même s'est investi personnellement pour qu'on laisse des sachants faire.
Vous avez déjà une idée des besoins pour pouvoir restaurer ça?
Non, non. Quand le ministère veut restaurer, ils même viennent faire les estimations du coût. Ils envoient les moyens. Si jamais cela n'intervient pas, bon, peut-être qu'il va falloir trouver un moyen pour créer une ligne budgétaire au niveau de la commune pour apporter quelque chose, même si on doit le faire en 2 ans, on le ferait. Mais pour préserver au moins l'édifice.
Troisième site que nous allons visiter, c'est celui appelé la case de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dans le quartier des Traoré, toujours en compagnie de notre guide, le maire et résident.
Monsieur Barreau,
oui.
Vous avez voulu qu'on vienne découvrir
voilà,
cette case.
Voilà, c'était cette case qui abritait le président Houphouët en 1946, lorsqu'il passait pour aller au Mali, à la création du RDA. Donc, c'est les Traoré et le secrétaire général du PDC, le fameux Dougoumouri, c'est leur famille qui lui ont donné cette maison. Donc, quand il vient, c'est ici qu'il loge. Ici, tel qu'on disait, il recevait les invités, les VIP et à l'intérieur, les VIP. Alors, comme je le disais, cette maison est menacée de destruction parce que vous voyez la voie qui vient là, elle continue plus bas parce que dans peu de temps, ils vont bitumer ces voies-là. La maison devient un obstacle pour cela. Alors, je me suis battu pour que vraiment, on essaie de contourner, quitte à indemniser ceux qui sont autour. Puis on fait des passages, on laisse la maison. Alors, au début, ça a été dit quoi, hein, les propriétaires ont laissé, ils ne font plus de réhabilitation. Ils sont découragés.
Sinon, depuis toujours, la maison à chaque fois a été réhabilitée.
Voilà, la toiture, les murs, ils essaient de faire. On leur a même dit, bon, mais pour la paille, on leur a apporté des soutiens pour faire, pour remplacer la paille. Mais ils ont baissé les bras, ils n'ont pas tort. À quoi ça sert?
Mais où faut même de son vivant, après avoir été président, il savait que cette maison avait toujours été gardée en pensant à lui?
Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il sait que Houphouët est venu ici à Kong 2 fois. Je crois que c'était en 60, quelque part, il est venu ici pour faire campagne. Et ensuite, parce que Kong avait été premier producteur de coton à travers les jeunes qui étaient le service civique, il est venu ici pour faire cette fête-là. C'est à l'occasion d'ailleurs de cette fête qu'il a reconnu un de ses anciens collaborateurs, qui était le musée de la mosquée qu'on vient de voir là. Le vieux se débattait, laissez-moi voir Houphouët, attends Houphouët, les gardes-corps l'empêchaient. Et puis Houphouët tourne, il voit, et puis il a dit Bissiri Baro, il a reconnu.
Sinon, à Kong, certaines personnes auraient bien voulu que cette case d'Houphouët soit entretenue et que ça serve de vestige pour les touristes.
Certaines personnes, dont moi.
Donc si. On peut arriver à Kong du jour au lendemain et trouver que cette maison a disparu.
Peut-être dans 2 ans, on ne verra plus cette maison ici. En effet, beaucoup de gens viennent demander où est la maison, où abri. Ils viennent exclusivement pour ça et c'est après maintenant ils vont voir la mosquée qu'ils ont déjà eu l'occasion de voir parce que les deux mosquées sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Malheureusement, elle n'existera plus sous peu.
Sous peu, elle n'existera plus.
Ce serait dommage. Hein.
Ce serait très dommage. Moi, ça me fait très mal au cœur parce que j'aime pas qu'on détruise.
Apparemment, la maison est encore solide.
Mais les jeunes là dormaient là-dedans. N'importe quelle maison, si on n'y rentre pas et puis sortir, la maison finit par devenir une ruine.
Avant de quitter la ville de Kong, nous nous sommes intéressés à quelques aspects de son évolution dans ces dernières années, ainsi que la situation sécuritaire.
Il y a 20 ans, le Congo n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous pouvez nous parler un peu de l'évolution de Congo?
Ben, j'ai vu Congo avant l'indépendance, j'ai vu Congo à l'indépendance et Congo après l'indépendance. L'avènement de la sous-préfecture a amené des agents de l'État ici à Congo.
Sous-préfecture dans quelle année?
Sous-préfecture, c'est dans les années 72-63. Et forcément, cela entraîne la construction d'infrastructures d'État. Notamment, c'était le service vétérinaire, le service des eaux et forêts, les TP, les travaux publics. C'était les quelques infrastructures qui étaient sur place. Maintenant, c'est devenu un chef de préfecture. Le chef de préfecture, ça veut dire qu'on va être obligé d'affecter les directeurs départementaux. Donc tout cela entraîne forcément la construction d'infrastructures pour les recevoir. Pour recevoir d'abord et les bureaux, et ensuite les logements. Et jusqu'à présent, tout n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore beaucoup de directeurs qu'on n'a pas encore vu arriver. Mais le peu qui est arrivé déjà a fait flamber de façon exponentielle le coût du logement, parce que la demande est forte. Vous avez vu la densité des militaires que nous avons ici, qui n'est nulle part pareille ailleurs.
En tout cas, on sait que la sécurité est vraiment assurée ici à Congo. Hein.
Vous savez la raison, parce que ce n'est pas parce que c'est Congo, c'est parce que c'est la vieille ville.
La menace d'à côté.
La menace d'à côté.
Il y a les autres infrastructures qui poussent un peu partout maintenant à Congo.
Oui, cela va sans dire, parce que ce qui nous fait défaut aujourd'hui, et je crois qu'on est en voie de résoudre ce problème, c'est les réceptifs hôteliers. À cause de l'arrivée massive des militaires, tout ce que nous avions, ce qu'on avait comme réceptif, on a cédé ça aux militaires, parce qu'il n'y avait pas de caserne, jusqu'à présent d'ailleurs. C'est maintenant qu'on construit les casernes.
On apprend également qu'il y a un aéroport en construction ici à Congo.
On a un aéroport en construction qui est très avancé d'ailleurs et un héliport. Bon, pour le moment, c'est un aéroport militaire. Vous savez, ça commence par là.
On va juste faire un pas. Hein. Monsieur Depuis, c'est par là que nous allons finir. Le problème de la sécurité aujourd'hui dans la zone de Congo, la menace extérieure avec les terroristes, comment la situation se présente ici chez vous?
Effectivement, grâce à l'arrivée de nos forces de défense, en tout cas, ils ont réussi à bloquer ces gens. Le terroriste ne cherche pas à gagner un combat, il cherche à terroriser la population. Alors, sinon, qu'est-ce qu'ils veulent? On n'a pas vu, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils revendiquent. En tout cas, on les a contenus. Tous nos militaires sont toujours aux différents points sensibles pour essayer de voir. Le matin, c'est ce qui m'a bloqué, c'est que je suis allé faire une réunion où on va parler à la population. Parce que les militaires, mais ils ne peuvent pas faire seul le travail sans l'appui de la population. Moi, je peux recevoir quelqu'un très gentil chez moi. Il n'a pas deux têtes, il n'a pas 10 oreilles. Comme moi, il a 2 oreilles, il a un nez, il a une bouche. Et pourtant, c'est un terroriste. Il est gentil, même il apporte quelque chose à ma porte. Mais il cherche à voir comment est-ce qu'on vit pour pouvoir taper quand il faut. Donc, c'est à la population d'apporter ce genre d'informations. Pas forcément qu'on veut stigmatiser l'étranger, mais dès l'instant où on voit quelqu'un, qu'on signale ça aux forces de l'ordre. Mais ne pas stigmatiser les anciens, parce que quand il y a eu les attaques, il y a eu un peuple. Alors la population a commencé à stigmatiser ce peuple-là. C'était pas bien. Des gens qui ont vécu longtemps avec vous, du coup, ils deviennent vos ennemis. Non, il fallait parler à la population.
Donc l'attaque en question vous a vraiment ébranlé ici, hein?
Oui, quand même, c'était la première fois qu'on voyait ça. On n'avait jamais entendu parler de ce genre d'attaque.
C'était où précisément?
À Kafolobak, qui est un peu vers la frontière du Burkina-Mali.
Monsieur le maire, à partir d'ici, vous lancez un message à toute la population riveraine de nos différentes frontières par rapport à la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité.
Merci beaucoup. Je crois que l'appel que nous avons à lancer, cette fois-ci, ce n'est pas l'imam Baro qui parle, c'est l'autorité communale qui parle. C'est qu'on demande fortement la collaboration de la population. Parce qu'on assiste maintenant à un autre phénomène, c'est le phénomène des réfugiés. Ceux qui fuient les attaques pour venir vers nous ici. Vous savez, quand il y a un camp de réfugiés, il peut y avoir n'importe qui là-dedans. Lorsqu'ils reçoivent des réfugiés, qu'ils les signalent aux autorités pour qu'on puisse les recenser et les tracer. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un arrive là, il n'a qu'un baluchon. On a pitié, on est humaniste, on va le garder. Mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Rien. Donc il faut mettre la puce à l'oreille des sachants pour qu'ils fassent leur travail.
Après plus de 2 heures passées dans la ville, nous avons pris congé de nos hôtes, laissant derrière nous une ville calme, accueillante, pleine de vie et surtout en plein chantier. Ce reportage vous a été présenté par Junior Carbe.
C'était Reportage.
Radio de la Paix.